Philippe Danel, on se retrouve donc pour présenter la nouvelle saison de l'ONL, l'Orchestre National de Lille, région Nord-Pas-de-Calais, la saison 2014-2015.
Oui, bonjour.
Quelles sont les grandes caractéristiques de cette saison ?
Mais évidemment, comme d'habitude, une très grande diversité de programmation, de programmes, d'œuvres, de compositeurs, de musiciens, mais aussi de formes, puisque l'Orchestre National de Lille est un orchestre qui, depuis très longtemps, innove et continue d'innover. Une nouvelle série cette année, Familissimo, un concert pour les familles, enfin voilà, un orchestre qui avance toujours à la recherche, à la rencontre de nouveaux publics.
Donc la musique française va côtoyer des musiques internationales, c'est encore cette année le cas, bien sûr.
Oui, bien sûr, parce que ça fait partie des missions de l'orchestre de défendre le répertoire de son pays, de défendre le répertoire français, mais aussi évidemment d'être ouvert à d'autres répertoires, avec un thème qui court aussi au cours de cette saison, celui des héros, à la fois les héros de la Première Guerre mondiale, que nous avons salué à l'occasion du Lille Piano Festival, mais à qui nous rendons un autre hommage au mois de novembre, aux alentours du 11 novembre, un programme complètement conçu sur ce thème. Les héros et les virtuoses qui occupent une place importante, à la fois des concertos de Paganini, Rachmaninov, enfin les grands héros de la virtuosité instrumentale, et des instrumentistes. Nous accueillons un certain nombre de pianistes dans cette saison, mais aussi des violonistes, organistes, enfin une grande diversité également d'instrumentistes, de musiciens.
La région est fortement impliquée dans la commémoration du centenaire de la guerre 14-18 notamment. Est-ce que cette période avant 14-18 était une période faste, riche en termes de compositeurs, en termes de musique ? Est-ce qu'on pourrait donner quelques noms ?
Oui, effectivement, on date le début du XXe siècle musical avec la création du prélude à la Prélude d'un faune qui est quelques années antérieures au début du siècle. Mais évidemment, le début du siècle, ce sont les ballets russes, c'est Stravinsky, c'est le Sacre du printemps, évidemment, à la veille de la Première Guerre mondiale, 1913. Voilà, toute une floraison de compositeurs, de nouveaux compositeurs, de nouvelles approches, et tout cela va être bouleversé par la Première Guerre mondiale, mais pas, bon, les compositeurs, évidemment, il y en a qui vont être touchés directement par la guerre, il y en a qui vont disparaître au combat, ou dans d'autres circonstances. On a en particulier le cas de Albéric de Magnard, qui en 1914 est tué par les Allemands alors qu'il s'apprête à défendre son château au nord de Paris. Mais donc, un certain nombre, une des compositeurs aussi qui réagissent à cette période, à ce conflit, à ces circonstances dramatiques, en composant une musique qui est une sorte de réaction, de vitalité, de créativité à cette formidable déflagration qui se produit alors.
Donc c'est vrai, une période troublée, une période où beaucoup de personnes peut-être ont délaissé les salles. Comment ça se passait à cette époque ? Est-ce qu'il y avait quand même, pendant la guerre, des représentations musicales, théâtrales ?
Oui, dans des circonstances particulières. On se souvient en particulier, bon, nous ne présentons pas cette année, mais l'histoire du soldat de Stravinsky, qui est un spectacle de très tôt, prévu, pour être donné dans des circonstances hors des salles de concert. Les compositeurs s'adaptent, mais la vie musicale continue, évidemment, dans les villes qui ne sont pas directement touché par le conflit, la vie musicale continue, on continue de composer, on continue de créer, de présenter de nouvelles œuvres, de nouvelles approches, de nouvelles esthétiques, enfin la vie ne s'arrête pas, la vie continue, complètement bouleversée évidemment par ce qui se passe à cette époque.
Par rapport à ce thème 14-18, donc est-ce qu'il y a un moment particulier de la saison ?
Oui, donc début novembre avec un spectacle, un concert que nous avons intitulé « Héroïque » autour de la symphonie héroïque de Beethoven, mais aussi de musique de Magnard, donc un chant funèbre de Magnard, ce compositeur dont je disais qu'il a été tué, qu'il a perdu la vie en 1914, aussi des leaders de malheur directement inspirés de ce thème du combat, du soldat, du militaire, donc des leaders de malheur, et aussi trois étoiles de Beethoven qui sont une œuvre assez particulière. D'ailleurs, c'est pas une œuvre symphonique, ce sont trois pièces pour quatuor de trombone qu'on joue évidemment pas très souvent, mais qui ont été composées par Beethoven pour son propre enterrement, pour ses propres funérailles. Donc c'est une pièce tout à fait particulière et donc qui va ouvrir ce concert hommage aux héros de la Première Guerre mondiale.
Cette période était aussi une période d'échange entre la Russie et la France en termes d'art, en termes de danse, en termes de musique. C'était une période assez florissante.
Oui, il y a eu effectivement, dont je l'ai voté, cette période des ballets russes qui a commencé dans les années 1910, qui s'est prolongée au-delà du conflit de la Première Guerre mondiale, puisque les ballets russes ont continué d'exister sous des formes différentes. Il y a toute cette création, et puis évidemment, la Russie n'a pas débuté, la musique russe a connu une dimension, nouvelle dimension, nouveau développement avec les ballets russes, mais elle existait déjà depuis quelques dizaines d'années avec des Tchaïkovski, Borodine, enfin tout le groupe des cinq. C'est une musique importante qui naît au 19e siècle et évidemment qui a une place importante dans la programmation d'un orchestre symphonique comme celui de l'Orchestre de Lille.
C'est vrai aussi que du côté russe, la France jouissait d'une certaine considération.
Oui, je crois qu'il y a une estime réciproque. Effectivement, les musiciens français sont allés beaucoup. Berlioz est allé en Russie, connu de grands succès, quelques-uns de ses plus grands succès en Russie. De même que nous avons accueilli un certain nombre de compositeurs russes. En fait, Tchaïkovski parlait français. Il y avait une place de la culture française en Russie assez importante et qui, effectivement, remonte à quelques siècles.
Voilà, une nouvelle place maintenant semble importante à vos yeux. Il s'agit de la Chine, et notamment avec votre expédition, votre armada musicale.
Oui, c'est la troisième fois que l'Orchestre National de Lille se rend en Chine, donc c'est pas une nouveauté, mais c'est toujours une aventure, parce que c'est un pays complètement différent du nôtre, et c'est une rencontre avec une culture complètement différente de la nôtre. Donc nous allons septembre en Chine pour trois concerts, en particulier un concert à Shanghai et dans deux autres villes qui nous ne nous disent peut-être pas grand chose, mais évidemment tout est à l'échelle de la Chine et ce sont des villes très importantes, donc
Suzhou, Hangzhou,
voilà, je vous laisse prononcer parce que vous le prononcez mieux que moi effectivement, donc trois villes importantes dans lesquelles nous présentons un programme français, en particulier avec la Symphonie du Tilleul. C'est pas une œuvre qu'on emmène facilement et fréquemment en tournée, mais c'est une œuvre importante pour l'Orchestre de Lille aussi, puisque c'est la première œuvre que l'orchestre enregistrait, c'est le premier disque vinyle à l'époque de l'Orchestre National de Lille, enregistré évidemment sous la direction de Jean-Claude Cazadesus, et c'est une œuvre phare du répertoire symphonique qu'on va remettre à l'honneur d'ici peu, puisque 2016 ce sera l'année du centenaire de la naissance de Henri Dutilleux, est un compositeur important, en plus un compositeur du Nord, donc une raison supplémentaire de lui rendre un hommage particulier.
C'est vrai qu'en Chine, il y a beaucoup de mélomanes et de musiciens qui connaissent en gros le grand répertoire, peut-être moins cette musique française.
Oui, je pense qu'il y a une grande curiosité. La musique classique en Chine, effectivement, a connu un boom ces quelques dernières dizaines d'années, avec en particulier développement du piano. Enfin, je ne sais pas combien de millions de pianos, de pianistes jouent du piano en Chine, mais enfin, c'est un chiffre tout à fait considérable. Et on le voit évidemment avec le développement, l'apparition d'artistes de plus en plus nombreux sur la scène internationale. international, d'artistes chinois, qu'ils soient pianistes, violonistes. Enfin, c'était... La Chine a pris dans le domaine de la musique dite classique une part tout à fait importante. Les Chinois emportent un certain nombre de prix. Enfin, ils ont une place importante dans les concours. Enfin, c'est vraiment un pays qui maintenant est un pays à part entière, qui occupe une place majeure dans la vie musicale internationale.
Donc, par rapport à ces virtuoses, à ces talents chinois, vous accueillez également des artistes ici à Lille.
Oui, tout à fait. Nous avons un chef d'orchestre chinois qui viendra nous rejoindre au début de l'année, au début de 2015. Nous avons aussi accueilli des violonistes, pianistes chinois dans le cadre du Lille Piano Festival. Oui, c'est un échange qui ne se limite pas à un voyage de l'orchestre en Chine, mais qui est un échange permanent entre nos pays.
Parmi les chefs d'orchestre invités, on peut encore citer qui ?
Voilà un certain nombre de collaborations avec des chefs d'orchestre que nous retrouvons, et puis de nouveaux chefs d'orchestre. Parmi les noms qu'on peut citer, évidemment, il faudrait tous les citer parce qu'ils ont tous des raisons particulières, de bonnes raisons pour venir à Lille. Hein. Mais il y a Kirill Karabits, avec qui l'orchestre a développé depuis un certain temps une collaboration particulière, et Evit Gulbjørnsen également. Des gens également comme Franz Strobel, qui est ce spécialiste des cinéma, enfin qui est un chef d'orchestre à Paris entière, mais qui s'est fait une spécialité des ciné-concerts, et étant donné l'importance de ce type de manifestation dans la programmation de l'orchestre, c'est évidemment quelqu'un aussi avec qui nous avons développé une collaboration particulière. Il a dirigé Metropolis, il a dirigé Matrix, et il revient donc pour un spectacle à partir du film de Chaplin, Les Lumières de la Ville. Pour parler de ciné-concert, nous aurons aussi Pirates des Caraïbes, qui est un spectacle grand public s'il en est. Voilà, donc ça aussi pour parler de la diversité de la programmation de l'Orchestre National de Lille.
Des orchestres invités également ?
Oui, une collaboration qui se poursuit avec deux orchestres belges en particulier, l'Orchestre National de Belgique et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Ça, ce sont des collaborations importantes, parce que la Belgique, évidemment, parler de la Chine, mais la Belgique est évidemment un pays important pour nous, étant donné sa proximité, étant donné aussi la richesse de sa vie musicale. Et donc, c'est un échange, ils viennent chez nous, et nous allons chez eux, nous nous produisons dans le cadre de la saison de l'Orchestre National de Belgique au Palais des Beaux-Arts, à Beaux-Arts, à Bruxelles. Nous nous produisons également une fois par an à Liège pour des projets très très importants en général.
Donc on peut mentionner une place particulière, celle de Yann Robin.
Oui, l'Orchestre National de Lille renoue avec cette pratique du compositeur en résidence. Vous savez que bon, la musique contemporaine, la musique, la création, une place importante, l'ont eu dès le départ dans la vie. C'était une volonté de Jean-Claude Casadesus de donner à entendre ces compositeurs nouveaux, parce qu'évidemment, si on ne les donne pas à entendre, ils ne trouveront jamais leur public. Donc, compositeur en résidence, l'idée, c'est de ne pas seulement programmer une œuvre, mais aussi de donner la possibilité au public de rencontrer un compositeur, aux musiciens de travailler en direct avec un compositeur. Donc on avait abandonné pendant 2 ans cette pratique parce que bon, l'orchestre a été hors les murs, c'était un peu compliqué à organiser. Et donc nous retrouvons cette année un compositeur en résidence, Yann Robin, jeune compositeur français avec un style très particulier, une musique très forte, très puissante, très volcanique. Voilà, donc je pense que le contact va se faire avec à la fois les musiciens et les spectateurs, et c'est très important. Je crois que ça change complètement la donne, enfin l'approche d'un compositeur, d'une musique. Quand on peut rencontrer le compositeur, s'apercevoir que le compositeur c'est quelqu'un comme nous, enfin voilà, qui c'est pas un extraterrestre ni quelqu'un dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui a les mêmes préoccupations et qui a la particularité de composer. Voilà, c'est approche tout à fait intéressante, je crois.
Quelques mots sur Ashes.
Ashes, c'est une pièce qui lui était inspirée, donc à Yann Robin, par Kurt Cobain. Voilà, qui est une pièce aussi qui sera donnée en création française, puisque c'est une commande, enfin, qui aura été juste créée auparavant aux États-Unis et que nous serons les premiers à présenter, même en Europe, création européenne, si je puis dire.
Philippe Danel, donc cette saison 2014-2015 est bien sûr large. On va parler un peu des dispositifs jeunes publics.
Oui, ben là, il a en lieu en particulier de parler de la série Familissimo. C'est une nouveauté cette année. On s'aperçoit que ça suscite un intérêt tout à fait particulier. Donc, Familissimo, c'est une série de 4 concerts, 4 propositions pour les familles. Possibilité pour les parents de venir avec leurs enfants, même en bas âge, enfin relatif bas âge évidemment, mais il faut quand même quelques années pour pouvoir apprécier un concert. 4 propositions complètement différentes, avec le Bûcher d'hiver de Prokofiev, qui est une pièce équivalente en quelque sorte à Pierre et le Loup, qui n'a pas connu la destinée de Pierre et le Loup, mais de la même qualité, de la même qualité musicale et pédagogique. Donc ça, c'est une des propositions. Nous aurons aussi Drumblebee, sans l'orchestre, là, un quatuor de percussions, tout un programme autour des percussions, très spectaculaire. Nous aurons également un spectacle Halloween, donc évidemment le 31 octobre, avec un programme de circonstances, avec Frankenstein, une œuvre d'un compositeur autrichien, Gruber, et puis la danse macabre, et aussi une suite tirée de Psycho, de Hitchcock, musique de Bernard Herrmann. Voilà, donc des propositions complètement accessibles, spectaculaires, différentes de ce que produit habituellement l'orchestre.
L'Orchestre national de Lille a bien sûr aussi une part de son activité, son rayonnement, qui se concentre et se focalise sur la région Nord-Pas-de-Calais, l'irrigation du territoire.
Oui, très importante évidemment, cette irrigation du territoire, une très large irrigation du Nord-Pas-de-Calais. C'est une chose ancienne, mais qui évidemment, puis ça fait partie en quelque sorte de l'ADN de l'orchestre qui est financé par la région et qui se doit effectivement de toucher tous les publics de la région dans la mesure du possible, d'aller, comme dit Jean-Claude Cazadesus, partout où l'orchestre peut être reçu. Mais c'est quelque chose qui demeure très vivant. On s'en aperçoit quand on va écouter l'orchestre en région, qui a toujours un accueil tout à fait particulier, qui a connu aussi une dimension, un développement ces dernières années avec l'opération Belle Sortie, initiée par l'île Métropole Communauté Urbaine. Donc là, c'est vraiment l'idée d'aller dans les toutes petites villes, toutes petites communes de la métropole lilloise, et d'aller dans des lieux où l'orchestre ne pourrait pas aller parce qu'il n'y a tout simplement pas la place pour accueillir l'orchestre, mais où on envoie une formation de l'orchestre, 15, 20, 25 musiciens, et là aussi, enfin, pour une rencontre tout à fait exceptionnelle, enfin, un accueil très très chaleureux de toutes ces communes où l'orchestre va. Et on s'aperçoit que c'est aussi une façon de toucher un public dont on pourrait se dire qu'il pourrait aussi venir au Nouveau Siècle, mais non, enfin, c'est aussi important pour eux de recevoir l'orchestre, même si, et c'est ce qu'on espère, convaincus par l'intérêt de ce que nous proposons, ils viennent ensuite écouter l'orchestre au Nouveau Siècle, à Lille.
Au Nouveau Siècle, est-ce qu'il y a des horaires particuliers qui seraient aménagés justement pour des publics différents ?
Et en particulier, effectivement, la série des concerts à 12h30, concert flash que nous avons lancé l'année dernière, 12h30, 45 minutes de musique, parfois c'est tout l'orchestre, parfois c'est juste un soliste que nous avons invité, à qui nous demandons de se produire dans ce cadre différent. Ça peut être une formation de l'orchestre, donc une très grande diversité de programmation, et là aussi, immédiatement, nous avons touché un public, 700-800 personnes par concert, midi et demi. A priori, on pouvait se demander qui on arriverait à toucher un horaire pareil, et on touche les travailleurs, enfin voilà, qui combinent leur pause déjeuner avec un peu de musique, aussi les personnes plus âgées peut-être qui ont quelques réticences à sortir le soir, à venir nous écouter à 20h et qui viennent à 12h30. En plus, il y a un tarif particulier très intéressant, donc un certain nombre d'arguments qui font que là aussi nous avons touché un public probablement, vraisemblablement différent de celui que nous touchons dans un cadre plus traditionnel.
Voilà, bien, l'orchestre est maintenant bien réimplanté aussi dans ses murs. Un petit bilan d'utilisation ?
Bah, écoutez, effectivement, c'était une grande nouvelle, enfin, un élément important que de retrouver cette salle, ce nouveau ciel. Surtout, nous avons retrouvé, je dis retrouvé, mais c'était aussi découvert une nouvelle salle, une nouvelle acoustique. Et bon, Jean-Claude Cazadesus le dit aussi, la salle, c'est l'instrument de l'orchestre. Et un bel orchestre dans une mauvaise salle, dans une salle à la mauvaise acoustique, évidemment, ça ne donne pas grand-chose. Mais par contre, quand elle est exceptionnelle, comme celle du Nouveau Siècle, enfin, on dit que c'est une des meilleures acoustiques actuelles, évidemment, ça ne peut que bénéficier à la fois à l'orchestre, aux musiciens et au public, évidemment.
Un petit bilan de fréquentation ?
Oui, 160 000 personnes accueillies à nos concerts, à nos différents concerts au cours de la saison qui s'achève. Je crois que c'est effectivement un chiffre très important. Et nous avons tout lieu de penser que ça va continuer, même continuer à se développer.
Bien voilà, Philippe Danel, merci et bonne rentrée à l'ONL.
Merci à vous, à très bientôt.
Voilà, cette nouvelle saison de l'Orchestre National de Lille vous était présentée par Philippe Danel, directeur artistique délégué. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de l'orchestre sur le site onlille.com. Ce sujet était réalisé par René Lavergne de Radio Campus.